Ce soir encore, Xavier Delaporte rencontre Christophe André. Tout de suite, le monde vu du cabinet.
Bonsoir Christophe André.
Bonsoir.
Alors c'est le dernier rendez-vous.
C'est très triste. J'ai plaisir à bavarder avec vous.
Que nous avons tous les deux. Je rappelle que vous êtes psychiatre, que vous avez écrit de nombreux livres depuis à peu près 25 ans, concernant la méditation, l'estime de soi, le bonheur, la sagesse. Hier, quand on a parlé de ces livres et de leur succès, qui est immense, vous avez attribué ce succès au fait, notamment, qui est sans doute beaucoup de malheur. Et j'aimerais aujourd'hui que on parle de justement ce qui rentre dans votre cabinet ou dans votre travail, des malheurs du monde, pour le dire de manière un peu grandiloquente. Est-ce que depuis tout ce temps que vous exercez, vous avez vu apparaître, disparaître, réapparaître des formes de pathologies qui vous permettent de dessiner comme ça des tendances? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Ça dessine quelque chose qui a rapport avec la société, selon vous?
Pas tant que ça. Alors, ouais, j'ai plutôt l'impression de travailler sur quelque chose d'éternel, des souffrances humaines, l'inquiétude par rapport à l'avenir, le manque d'amour, les doutes sur soi. Il me semble que ça, ça existe depuis toujours. Alors, si vous me posez la question, c'est vrai qu'il y a quand même des modifications. Par exemple, quelque chose qui est très, très marquant dans le discours des personnes déprimées, c'est que lorsque je me souviens des déprimés que nous recevions à l'époque où j'étais interne, donc dans les années 80, le tout début des années 80, il y avait encore beaucoup de culpabilité. Les gens se considéraient comme n'ayant pas été à la hauteur de ce qu'attendaient leur famille, leur employeur, la société. Ça a évolué. Ça a évolué, on a toujours ce genre de discours, mais on a aussi de plus en plus des personnes qui ont un peu inversé le focus et qui souffrent très sincèrement, très profondément, de ne pas avoir été reconnus, du manque de considération, du manque de bienveillance. Je pense que la culpabilité est toujours sous-jacente, on la trouve d'ailleurs évidemment, mais dans des zones plus obscures et plus profondes, mais la première plainte, le premier jet de la plainte est plutôt du côté du manque de reconnaissance et du manque de bienveillance. Donc,
comment vous l'expliquez ?
Justement, si on cherche à l'expliquer, on peut en tirer plusieurs conclusions. La première, c'est que notre société, je ne dirais pas qu'elle est devenue plus violente, parce que souvent on idéalise les sociétés du passé. Moi, je rappelle souvent que dans le passé, on battait les enfants, on tuait les animaux pour un oui, pour un non. Les maris violentaient leurs femmes, etc. C'est quand même, c'est pas, donc c'était pas forcément mieux avant, et les rapports au travail n'étaient pas forcément amicaux, bienveillants, etc. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose de plus violent dans nos sociétés en termes de non-reconnaissance, de la valeur du travail accompli, Je ne suis pas sociologue, j'ai pas un regard assez affûté sur ça, mais en tout cas, si j'en crois mes patients, ce manque de reconnaissance les fait beaucoup plus souffrir aujourd'hui qu'autrefois. Alors la deuxième explication, c'est peut-être que, et je crois que c'est en partie vrai aussi, nous sommes devenus plus narcissiques qu'autrefois. Nous avons plus d'attentes par rapport à la reconnaissance que nous devrions obtenir. Nous avons plus besoin d'être valorisé, d'être encouragé. Et il y a un peu de ça, c'est-à-dire que nos sociétés de consommation, nos sociétés matérialistes ont ceci de malsain qu'elles flattent beaucoup nos égos, qu'au travers de la publicité, elles nous disent parce que vous le valez bien, vous êtes unique, vous êtes exceptionnel, quand vous avez une envie, cédez-lui, si vous avez une tentation, allez-y, vous n'avez pas d'argent pour acheter cette voiture, mais c'est pas un souci, achetez-la quand même, on va vous faire un crédit, c'est-à-dire il y a un truc quand même auquel moi je suis assez sensible, qui est malsain parce que c'est à double fond. C'est-à-dire à la fois, on flatte beaucoup les gens, on les narcissise, on les infantilise, je pense, en leur disant qu'ils sont merveilleux, qu'ils ont tous les droits. Et puis dans le même temps, on est quand même dans des sociétés de plus en plus compétitives où si vous n'avez pas la bonne apparence physique, les bonnes fringues, les dents blanches, pas trop de rides, etc., vous êtes mis sur le côté. Hein. Vous connaissez tous ces travaux, notamment c'est un de mes copains qui s'appelle Jean-François Amadieu, qui est sociologue à la Sorbonne, qui a fait tout un tas d'études de testing où il répond à des petites annonces en envoyant le même CV avec des photos différentes. Sur une photo, c'est quelqu'un de très beau, et sur l'autre, quelqu'un de très moche. Et je peux vous dire que votre apparence physique joue un rôle considérable. Et bon, c'est comme ça, notre société marche comme ça, donc elle met une pression terrible sur ses citoyens, en tout cas les sociétés occidentales, et donc comme le monde entier s'occidentalise, le monde entier marche comme ça, sur les caractéristiques affichées, les caractéristiques physiques, psychologiques, tout ce que vous voudrez, et donc on est dans une compétition sociale épouvantable, de laquelle il vaut mieux ne pas être éjecté. Et puis en même temps, on nous fait croire qu'on est merveilleux, qu'on est magnifique. Voilà, cette espèce de sale cocktail engendre beaucoup de souffrance.
En vous écoutant, je me dis, mais est-ce qu'on peut faire votre métier sans avoir une vision politique du monde ? Parce que quand vous dites ça, finalement, c'est un propos très politique. On voit très bien de ce dont vous parlez.
Alors, j'ai longtemps cru que non. J'ai longtemps cru que pour bien faire mon boulot, enfin pas que j'avais pas besoin d'avoir une vision politique. Puis là, je suis un peu en train de me faire rattraper par ça. Pour autant, comme on le disait au tout début, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est invariant, que quel que soit le régime politique, quel que soit l'état des inégalités sociales, il y a quand même des formes de souffrance qu'on retrouvera tout le temps. Mais je suis de plus en plus convaincu, malgré tout, qu'il y a un côté psychotoxique dans notre société. Et je suis de plus en plus convaincu de l'importance d'une médecine environnementale. Donc quand vous êtes médecin, vous savez que l'environnement du patient, enfin on le sait aujourd'hui, on n'a pas toujours su malheureusement, l'environnement du patient pèse sur sa santé. Mmh. Autrement dit, vous ne pouvez pas espérer être en bonne santé physique si votre environnement est pollué. Si vous mangez des aliments très pollués, pleins de métaux lourds, de perturbateurs endocriniens, si vous respirez un air très très pollué, plein de particules fines, etc., si vous buvez une eau extrêmement polluée, votre santé ne pourra pas bien fonctionner. Et aujourd'hui, les médecins doivent tenir compte de ça. On ne peut pas ignorer ces études et il faut que les médecins montent au créneau pour gueuler contre les lobbies de l'industrie agroalimentaire, etc., qui bousillent notre santé, celle de nos enfants, celle de nos contemporains. Mais il y a la même chose en matière psychologique. Il y a des pollutions psychiques avec dans nos sociétés qui accentuent énormément la notion de compétition sociale, de l'importance de l'apparence physique, l'importance du statut, l'importance du nombre d'amis. Voilà, si vous n'avez pas les dents blanches, 500 amis sur Facebook, je ne sais même pas quelle est la norme, je n'ai pas de compte Facebook personnel, mais enfin bref, et ben vous êtes un minable, quoi, en gros. Et donc, ça, c'est la même chose que les métaux lourds dans l'alimentation, notre eau de boisson. Ça bousille nos esprits, ça abîme nos esprits. Et donc, de plus en plus, ces dernières années, moi, je fais des papiers, je monte au créneau dans les tribunes de nos colloques ou lorsque j'ai l'occasion d'en parler avec des journalistes, par rapport à ces choses-là, à ces aspects psychotoxiques. Donc, c'est une façon de mêler la politique et le psychologique. Même si, bon, j'ai jamais trop aimé ça parce que, pendant un moment aussi, on avait dans notre milieu cette espèce de vieille antienne là qui disait qu'au fond, mais c'est ce qu'on reprochait d'ailleurs au tout début aux psychanalystes, dans la fin des années 60. On disait au fond, la psychanalyse, ça détourne de la lutte politique. Quoi. Quand les gens s'engagent en psychanalyse, ils s'occupent de leur nombril, ils renoncent au combat politique. Et donc à l'époque, les années 60-70, c'était des années où l'engagement politique, c'était un truc vraiment vital, capital, très très considéré. Bon, moi j'étais un peu gamin à l'époque, mais rétrospectivement, je m'en aperçois. Et donc ça m'a toujours un peu agacé parce qu'il me semble que c'est compatible tout de même, que le psychologique, l'intérêt qu'on porte aux faits psychologiques n'exclut pas l'intérêt qu'on peut porter aux faits politiques ou même l'engagement politique. J'ai même aussi la conviction qu'il y a un lien constructif entre les deux. Moi, il y a il y a un concept que j'aime beaucoup, qui est le concept d'intériorité citoyenne. Alors, il me semble que le premier à l'avoir proposé, c'est un psychothérapeute belge qui s'appelle Thomas d'Ansembourg, qui est un copain, un garçon très intéressant, qui a écrit plusieurs bouquins, notamment un sur ce thème. Et lui, son raisonnement, c'est le suivant. Cette notion d'intériorité citoyenne signifie, je simplifie un petit peu, que vous ne pouvez pas être un bon citoyen si vous n'avez pas fait le ménage à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un de profondément égoïste, impulsif, que sais-je, coléreux, bah, c'est compliqué d'imaginer que vous allez, tout en trimballant ce grand bordel à l'intérieur de votre tête, de vos émotions, vous allez pouvoir vous comporter de façon juste, cohérente, constructive, avec votre environnement immédiat, et donc... Bah, notre comportement avec nos proches, c'est les débuts de la politique. C'est comment je me comporte en public, quel but je privilégie, etc.
J'aimerais être d'accord avec vous, mais l'Amérique a élu Donald Trump.
Ça ne contredit pas. Non, mais c'est une catastrophe, évidemment.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est aussi dans une période politique assez étrange où on se demande si nos dirigeants ne sont pas fous.
En tout cas, ils ne sont pas sages. Je ne sais pas s'ils sont fous, mais ils manquent de sagesse. C'est-à-dire, vous savez, je pense que cette sagesse, la sagesse, c'est pas seulement de l'intelligence ou de l'habileté. Dans la sagesse, il y a la notion d'avoir pacifié son tumulte émotionnel, son tumulte égotique, d'avoir de la bienveillance pour les autres. Très clairement, la plupart des dirigeants politiques contemporains manquent de sagesse. Ils ne manquent certainement ni d'intelligence, ni de volonté, mais ils manquent beaucoup de sagesse sans être fous pour autant.
Enfin, c'est vrai, j'ai mal employé ça. Je suis d'accord avec vous.
Et puis en plus, les psychiatres ne savent pas ce que c'est que la folie. Moi, j'ai jamais vu de fou de ma vie. J'ai vu des gens qui souffraient, qui avaient des problèmes de dépression, qui déliraient, mais j'ai jamais vu de fou.
Et ce serait quoi un monde où tout le monde serait sage?
Ah ouais, non mais je vous vois venir.
Là, ah non, j'ai rien.
Non, oui, parce que celle-là, on nous la fait souvent.
Non.
Qu'est-ce que ça serait ennuyeux.
J'ai pas dit ça.
Avant. Ah mais tant mieux. Alors. Non, mais je réponds quand même. Alors, un monde où tout le monde serait sage, ça serait très intéressant. D'abord parce que je pense que la sagesse est à peu près inatteignable sur la durée. C'est comme le bonheur. C'est-à-dire, c'est un idéal vers lequel nous tendons, dont nous nous rapprochons plus ou moins, parfois, certains d'entre nous en tout cas. Et puis, dès le lendemain, voilà, on a dormi, on se réveille et tout est à recommencer. Voilà. Donc, je suis assez tranquille sur ces lendemains que vous évoquez où l'humanité entière serait heureuse et sage. On est encore loin, peut-être qu'un jour, on aura fait suffisamment de progrès éducatifs, psychologiques, pour commencer à s'en rapprocher. Ceci dit, je pense qu'on peut avoir des petits échantillons de ça à certains moments, dans certains environnements. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des vacances privilégiées ou des séjours privilégiés avec des groupes d'amis ou avec certains membres de votre famille où l'harmonie règne, où finalement... Les gens sont bienveillants les uns avec les autres, tout le monde fait sa part de vaisselle, de ménage ou de course. Quand quelqu'un a du mal à marcher lors d'une promenade, tout le monde l'attend sans s'énerver, il y a de la gentillesse, les discussions sont intéressantes et personne s'engueule, personne n'est égoïste, personne n'emmerde les autres et... C'est quand même vachement bien. Alors, bien sûr que un petit peu d'épices qui amenaient à la vie de temps en temps par les grains de folie, les coups de gueule. Mais le fond de sauce, quand même, le plus agréable, c'est tout de même le respect, l'harmonie, la sagesse. Alors moi, je ne suis pas du tout habité par ce fantasme que certains... ont parfois, c'est ce sur quoi je pensais que vous vouliez me titiller, de dire non, mais ça serait trop emmerdant, quoi, si tout le monde était gentil, si tout le monde était raisonnable. Je crois pas que ça serait emmerdant. Je crois que de toute façon, La vie se charge de nous administrer ces doses d'adversité. La vie se charge de nous faire descendre des tremblements de terre, des maladies, des morts, des souffrances, pas forcément liées à nos comportements. Donc on est déjà servi en matière d'adversité. Et puis nous sommes tellement imparfaits, tellement faillibles. Ce boulot, une fois de plus, d'arriver à la sagesse et à la gentillesse est tellement à recommencer chaque jour que je crois que c'est plutôt cet horizon-là qu'il faut se donner. Plutôt que celui du laisser-aller, de dire non, c'est génial qu'il y ait des gros caractériels. Ça, j'y crois pas un instant.
Plusieurs fois, depuis le début de cette semaine, vous avez dit ou signifié que le bonheur ou l'harmonie, là en l'occurrence, il y a quelques minutes, étaient des états nécessairement précaires. Comment on fait avec cette précarité? Comment vous faites, vous?
D'abord, il y a pire encore. Il y a pire, c'est qu'on va mourir. Vous allez mourir, je vais mourir, tous les gens que nous aimons vont mourir. Donc ça, c'est le premier vrai problème. C'est-à-dire, tous les animaux meurent, mais le seul animal qui sait distinctement qu'il va mourir et qui doit se coltiner toute sa vie avec cette idée, c'est l'être humain.
Pourquoi c'est si terrible que ça?
Pour moi, c'est terrible parce que j'aime beaucoup la vie. L'idée de ma propre mort ne m'angoisse pas. Pas tant que ça, mais me rend très triste. Je suis à peu près sûr qu'au moment où il me faudra mourir, ce sera peut-être demain, si en tout cas je le vois arriver, je serai beaucoup plus triste qu'inquiet. C'est triste parce que la vie est belle, la vie est intéressante, la vie nous apprend plein de choses, et je pense que jusqu'au dernier moment, elle continue de nous nourrir et de nous émerveiller, et même peut-être que plus ça va, plus elle nous émerveille. Donc, ouais, moi, ça m'emmerde, l'idée que nous allons mourir, que les gens que j'aime vont mourir et que les humains meurent. Donc, il me semble que déjà, nos efforts avec la condition humaine commencent là. Alors après, bien sûr, il y a ce que vous disiez, il y a le fait que il y a de l'adversité, que la vie est compliquée, que la vie est difficile, que le bonheur est fragile et labile. Mais ça me paraît plus facile à résoudre. Ça me paraît plus facile à résoudre parce qu'au fond, ceci dit, c'est la même chose pour la mort, mais voilà, la seule réponse, c'est de dire savoure chaque instant de bonheur qui t'est donné parce que tu sais pas ce qui va se passer ensuite. Et donc, ne fais pas l'inverse. Ne gâche pas le bonheur qui t'est offert sous prétexte qu'il va s'interrompre tout à l'heure. Là, si tu prends l'équation dans ce sens-là, tu prends quand même l'autoroute à contresens. Non, mets-toi de l'autre côté. Mais ceci dit, vous voyez, en vous parlant, on pourrait appliquer, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, hein, on pourrait appliquer le même raisonnement à la mort, c'est-à-dire tu as très peur de la mort. Et donc, c'est pour ça que tu dois aimer la vie de toutes tes forces. Ça serait trop con quand même d'avoir peur de la mort et en plus de ne pas profiter de la vie. Là, tu as tout perdu.
Je suis étonné par une chose. Je trouve que vous parlez assez peu de la sexualité. Je suis étonné.
Pour un psy. Très peu. Ben écoutez, je ne crois pas avoir de réponse structurée et satisfaisante à cette question, mais je vais me lancer quand même. Comment vous dire ça? C'est-à-dire, je suis convaincu que ce qui est intime est universel. C'est-à-dire, je n'ai pas de gêne à parler de mon expérience, de la paternité, de mes émotions, de mes états d'âme, parce qu'il me semble que je suis un humain ordinaire et représentatif de ce que peuvent ressentir la plupart des humains. Ça, c'est ma vie intime. Et puis après, il y a ma vie privée, c'est-à-dire à quoi ressemble mon épouse ou mes filles, où j'habite exactement, combien je gagne, combien de fois je fais l'amour par semaine, dans quelle position, etc. Et ça, ma vie privée, il me semble d'abord que ça n'a aucun intérêt pour mes lecteurs ou pour les gens qui nous écoutent à cet instant. Et pour moi, la sexualité fait partie de la vie privée. Alors vous me direz qu'il y a aussi quelque chose d'intime et d'universel dans le sexe, évidemment, mais C'est pour ça que je vous prévenais tout à l'heure à l'avance que j'allais vous faire une réponse insatisfaisante.
Non, mais d'autant plus que s'il y a bien une raison d'être malheureux ou heureux, qui est quand même un de vos objets, c'est bien la sexualité.
Et non, justement, vous me poussez un peu dans mes retranchements, je ne pense pas ça, non. Non, je ne pense pas ça, sans doute parce que j'ai une trop grande proximité avec la vie monastique. J'ai des amis qui sont moines, religieux, des gens comme Mathieu Ricard ou d'autres amis moins connus, qui ont fait vœu de renoncer à toute forme de vie sexuelle, anatomique en tout cas. Après, dans notre cerveau, il peut se passer des tas de choses merveilleuses avec le plaisir. Et qui me semble, pour autant que je les connaisse, et certains d'entre eux je les connais très bien, pleinement heureux. Et donc c'est pour ça que je crois que le sexe c'est un truc merveilleux, moi j'aime beaucoup, hein, personnellement, mais qui n'est pas indispensable à notre bonheur et à notre équilibre.
D'accord. Puisque vous parlez de vie monastique, quelle place a la religion dans votre vie ? Vous nous avez expliqué que après la mort de votre meilleure amie, vous étiez parti en retraite chez les bénédictins. Vous avez parlé aussi de votre rencontre avec Mathieu Ricard et le bouddhisme. Vous en êtes arrivé à une forme de syncrétisme, ou alors vous êtes un chrétien au travail ?
Ouais. C'est compliqué. Mon rapport à la religion est un rapport un peu foutraque. D'abord, j'ai été baptisé comme on l'était à mon époque, hein, même si mes parents n'étaient pas très croyants et pas du tout pratiquants. Ensuite, le grand personnage de mon enfance a été mon grand-père maternel, qui était un militant communiste athée et anticlérical, c'est-à-dire que chaque fois qu'on croisait des curés, on levait le poing et on chantait l'Internationale tous les deux. Donc ça partait pas très bien, toutes ces histoires de religion. Et je suis retombé dans les bras de la religion à l'âge adulte, notamment après la mort de mon ami, en rencontrant mon épouse, qui est issue d'une famille très chrétienne, de chrétiens très actifs, très militants, qui mettent en œuvre leur foi chrétienne dans une vraie bienveillance et bienfaisance, enfin très sobre, mais qui sont plutôt exemplaires, je dirais, quant à leur amour du prochain. Et donc ça m'a ça m'a attiré vers le christianisme. Alors c'est vrai que Mathieu m'a aidé à découvrir cet univers du bouddhisme qui est magnifique, très inspirant en ce qui concerne la psychologie bouddhiste. Après la religion bouddhiste, toutes les pratiques rituelles, etc., là j'y suis totalement étranger, c'est pas mon univers. Et pour ça, moi j'apprécie beaucoup le discours du Dalai Lama qui dit, quand les Occidentaux l'interrogent sur au fond, que faire entre christianisme et bouddhisme, il dit « vous avez le christianisme en Occident, c'est très très bien le christianisme, c'est l'amour du prochain, le respect des faibles, non, c'est fantastique, c'est votre tradition, c'est très bien, ne devenez pas bouddhiste ». Et il dit l'essentiel, c'est-à-dire il dit que finalement, quel que soit le véhicule qu'on emprunte, si on a des aspirations à la religion, à la foi ou à la spiritualité, c'est souvent plus simple de partir de son enracinement, c'est... Alors bon, je sais que c'est un sujet sensible, hein, je ne sais pas lequel des politiques qui a fait un bouquin dont le titre c'est « Tant que les cloches sonneront », je ne sais pas quoi, mais c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire quand j'entends les cloches sonner, c'est toute mon enfance, les cloches du dimanche midi et tout, et c'est cet enracinement-là dont je parle, ça ne veut pas dire que je rejette les autres traditions, mais voilà, on est né, on a grandi là-dedans, même moi qui étais dans une famille où on n'allait jamais à l'église, hein, j'ai jamais mis les pieds à l'église avant 25 ou 30 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est mon environnement, mon biotope, comme on dit pour les animaux.
Il n'y a pas de contradiction, vous voyez jamais de contradiction entre cette forme de chrétienté, même foutraque, mais biotopique, puisque vous le dites comme ça, et votre métier de psy, je ne sais pas, quelque chose qui serait d'un côté une transcendance et de l'autre une immanence qui n'irait pas toujours ensemble. Étant ni l'un ni l'autre, c'est une hypothèse.
Oui, oui. Non, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ce qui relève de la philosophie chrétienne, une fois de plus, l'amour du prochain, la compassion, etc., est très précieuse dans mon métier. Et tout ce qui relève de la foi chrétienne, la croyance en la résurrection de la chair, en l'Immaculée Conception, etc., n'a aucun intérêt dans mon métier. Et donc, je n'ai pas ni évidemment en parler à mes patients, mais ça ne m'aide pas quand je suis en détresse pour soigner quelqu'un. Ce qui m'aide, c'est la philosophie chrétienne. Une fois de plus, c'est le côté laïque du message christique. Et donc... voilà, Toro a raison, je suis assez tranquille avec ces histoires-là.
Et est-ce que, puisqu'on arrive vraiment au terme de cette, de ces émissions en votre compagnie, est-ce que vous auriez aimé, ou disons, pour le dire un peu différemment, si vous n'aviez pas été psychiatre, si vous n'aviez pas eu la vie que vous avez menée, qu'est-ce que vous auriez fait, Christophe André?
Je pense que j'aurais sans doute aimé être enseignant. D'ailleurs, bon, j'ai été enseignant à l'université, j'enseigne, je fais des cours aux internes, aux étudiants en psychologie. J'aime beaucoup ça. Mmh. J'aime faire des conférences, j'aime transmettre mon savoir. Donc, je pense que j'aurais été un enseignant assez correct si ça avait été mon métier principal, quoi.
Pas moins de bénédictin. Pas rugbyman.
Ah si, bien sûr. Non, mais là, on est plutôt dans les fantasmes. C'est bien sûr. Alors, non,
pas Don Juan éternel.
Ouais, non, Don Juan, non. C'est trop stressant, trop fatigant et on fait trop de mal autour de soi. Non, je regrette cette période de ma vie où j'étais dans le Don Juanisme. Mais après, non, être international de rugby, marquer des essais splendides, ça, c'est un fantasme. Alors, évidemment, si vous aviez une baguette magique, c'est évident que j'aurais été le plus grand joueur de rugby de tous les temps. Génial, etc. Et la vie monastique me passionne et m'attire. D'ailleurs, c'était au début une des craintes de mon épouse quand on s'est rencontrés. Et comme à l'époque, j'allais encore très souvent au monastère. Après, quand on a eu nos filles, c'était plus compliqué. Mais parfois, elle avait peur que je l'abandonne pour devenir moine. Tellement j'aime cette vie monastique. J'aime l'ambiance du monastère, les repas en silence, les offices, les... je suis très... Mais c'est comme le rugby, je pense que j'ai pas la carrure suffisante. C'est quand même un mode de vie très exigeant et qui nécessite, à mon avis, des capacités hors du commun pour s'y sentir heureux, en tout cas.
Merci beaucoup, Christophe André.
Merci à vous.
Merci de nous avoir accueillis toute cette semaine chez vous pour cette série d'entretiens. Je renvoie au site de France Culture pour toutes les références des livres dont on a parlé, dont on a évoqué les titres. Merci, au revoir.
Au revoir.
Cette rencontre de Xavier Delaporte avec Christophe André. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Assia Khalid, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.